Nous sommes au kilomètre 50 depuis notre départ de Source-Seine, près de Dijon, là où la Seine prend sa source. Et nous avons traversé cette vallée de la Seine au milieu de la Bourgogne, qui est absolument magnifique. Et là, de manière assez étrange, nous sommes tombés sur un petit village qui s'appelle Nos-sur-Seine. Et dans ce petit village, il y a un Aftrac, un véhicule chenillé américain sur lequel il y a marqué Tchad. Et c'est l'irruption de l'épopée de la France libre, c'est l'irruption de l'épopée du Tchad et des guerres franco-allemandes au milieu de cette vallée de la Seine, si paisible, silencieuse et presque déserte. Et pour en parler, nous sommes transportés dans le berceau d'une famille assez inconnue et pourtant admirable, qui sont les Mangins, dont je voudrais vous parler. Nous sommes ici au château de Chennecières. Ce château appartenait au général Mangin, qui a été l'un des vainqueurs de la Première Guerre mondiale, l'homme de l'offensive de Villers-Cotterêts, l'un des vainqueurs de Verdun, qui est mort juste après la Première Guerre mondiale, qui était le fils du préfet de police de la Révolution de 1848. Nous sommes donc ici à Chennecières. C'est une grande maison qui ressemble un peu à ce que devait être le château du Glandier dans les aventures de Rouletabille, vous savez, de Gaston Leroux, quelque chose de très 19e, avec des grandes pièces fraîches et du lierre sur les murs, intermédiaire entre, en effet, l'histoire policière et l'histoire tout court. Et nous sommes dans le grand salon. Et à deux pas dans l'entrée, il y a eu pendant longtemps, elle est en réparation maintenant, une maquette d'une sculpture célèbre où on voit le général Mangin prêt à donner l'assaut avec à ses pieds, entre guillemets, comme prêt, des chiens de guerre prêts à bondir, un tirailleur africain et un soldat français. Le général Mangin a été l'un des pères des troupes coloniales, ce qu'on appelait la Force Noire, ce qui lui a valu une réputation assez mélangée. Et au fond, Mangin est un personnage extraordinaire parce qu'il échappe de toutes parts. La droite l'a aimé, Léon Daudet l'a aimé, et Maurras à certains égards, il leur échappait de manière radicale. Il est d'une certaine manière le contraire de Pétain. Pétain figurait une sorte d'immobile, de statue, de père éternel. Mauriac, par exemple, un moment égaré, a cru écrire que la voix du général de Gaulle rendait comme celle de Dieu un son intemporel. Le père était revenu, c'était le même père qu'on avait pu aimer, que les Français, certains Français avaient pu aimer chez Pétain. Mauriac écrit « J'ai fait ce rêve que l'homme massif est comme pétrifié, debout à la barre, ne changerait plus ». Eh bien Mangin, c'est exactement le contraire de ça. C'est quelqu'un qui bouge et qui s'y transforme sans cesse jusqu'à la fin. Edward Spears, le général anglais qui a été l'un des grands amis de la France libre, le décrivait comme une forge jaillissante. La défensive lui est inconnue. La peur du désordre lui est inconnue aussi, il n'y a pas de beaux gestes, le soldat perdu est un âne, tout ce qui importe, c'est de gagner les guerres. Et pour gagner les guerres, eh bien, il vaut mieux se résoudre à l'offensive. Et pourtant, il n'était pas un adepte de la charge en gants blancs, faisant des milliers de morts, il a été l'inventeur du feu d'artillerie. Et au fond, c'est lui qui a terminé la Grande Guerre avec cette offensive du 18 juillet 18, où il a agrégé ensemble 30 régiments d'infanterie, les Zouaves, les Tirailleurs, les Marocains, les Malgaches et les Russes, et la Big Red One, première division d'infanterie américaine. Il avait commencé comme un grand soldat colonial, il avait assuré la pacification du Maroc, il avait été jusqu'à Fashoda, au moment des difficultés entre la France et l'Angleterre, et il avait voulu gagner en permanence par l'offensive la Première Guerre mondiale. Il est, pour cette raison, la bête noire des Allemands. Avant de signer l'armistice dans le wagon de la première capitulation, en 1940, Hitler a fait dynamiter dans la carrière de Rotonde la statue du général Mangin. Il en fit détruire une autre à Metz. Et de même, à l'arrivée dans Paris, le 18 juin 1940, le premier acte des généraux pour plaire à Hitler a été de faire sauter, exploser, le Mangin de pierre qui dominait la place Denis Cochin. « Mon père, dira l'un de ses fils, n'aura jamais eu d'aussi belle citation. » Cette destinée dans l'armée, dans la nation, est une destinée tout à fait singulière, comme celle de sa famille, et pas seulement par l'ampleur des sacrifices, qui fait qu'entre toutes les tombes du cimetière du Montparnasse, celle de la famille Mangin ne compte que des femmes, puisque les hommes sont tombés partout, là ils sont tombés sur les champs de bataille. Et la France que les Mangin, lui et ses fils et ses gendres, dont je vais parler, ont aimé, de cette espèce d'amour violent qui les achetait dans les guerres et dans ce que la Déclaration des droits appelle la résistance à l'oppression, c'est une France qui ne se laisse pas facilement définir. Ça n'est pas la France de Maurras, ça n'est pas la France de Barrès. Mais elle ressemble un peu à la France de Hugo, mais d'un Hugo qui n'aurait pas choisi l'exil à Guernsey et qui aurait appelé, du fond d'un réduit breton de modèle 1940, tous les amis de la France pour les organiser inlassablement en régiment d'infanterie et aller lancer à l'assaut du mal sans souci des pertes. Une chose est frappante aussi chez Mangin, c'est son éloignement des préjugés du temps. Il avait épousé la fille de Godefroy Cavaignac, qui s'appelait Antoinette. Cavaignac avait été l'un des persécuteurs de Dreyfus. Et elle, la fille du premier des anti-Dreyfusards, la seule question qu'elle lui pose est de savoir s'il est antisémite. Et homme de peu de paroles, Mangin répond simplement « Je ne le suis pas ». Antoinette Cavaignac lui donnera 9 enfants, certains mourront au combat. Quand en 40, le maréchal Pétain s'apprête à prendre le pouvoir, la veuve du général Mangin, Antoinette donc, dit à Végan d'un ton de mépris « Pétain, c'est bien celui que nous avons connu ». Puis elle passe par Vichy, elle s'assied dans l'entrée de l'hôtel du Parc, elle attend que Pétain passe et frappe le sol de sa canne en disant à haute voix « N'y a-t-il donc plus un homme en France pour arrêter ce traître ?» On ne pouvait rien contre la femme du vainqueur de 1918. Elle finit par partir en Suisse avec ses petits-enfants, les conduisant à pied par des chemins de montagne avec sa béquille, le reste de la famille étant entré en résistance. Alors il y a comme ça des familles étonnantes où les choses se transmettent. Mangin a eu plusieurs enfants, mais il a eu 2 fils et 2 gendres notables. Les 2 fils étaient Stanislas Mangin, compagnon de la Libération, qui ensuite a démissionné du Conseil d'État pour être l'un des fondateurs du Gisti et comme avocat plaider inlassablement la cause des immigrés en France. L'autre était Louis Eugène, qui était un des héros de la France libre et qui a été aussi l'un des grands artisans des relations entre la France et Israël sous la 4e République, puisqu'il a été l'un des artisans des mouvements par lesquels l'État d'Israël est en réalité acquis la bombe atomique. Ce qui fait que Golda Meir venait souvent ici et que l'on peut voir la chambre de Golda Meir au premier étage de l'endroit où nous sommes. Et puis il y a eu un personnage par lequel je voudrais finir, qui s'appelait Diego Brosset, un méhariste, l'auteur de « Un homme sans l'Occident », ce livre extraordinaire qui a été porté au cinéma par Raymond Depardon. Et Diego Brosset, qui a été le patron de la première division française libre, qui était la division de Bir Hakeim, entré le premier dans Rome, participant au débarquement de Provence, remontant le Rhône, libérant Lyon, écrivant à l'un de ses amis « Les hommes forts ne tombent jamais quand il faut passer ». C'était l'ami de Saint-Exupéry, c'était l'ami de Vercors. Il avait comme conducteur de Jeep Jean-Pierre Aumont. Jean-Pierre Aumont, l'acteur qui s'était fait connaître dans l'équipage, dans le lac aux dames d'Allégret, et dont la notice Wikipédia dit simplement « militaire de la France libre et acteur français », tout en lui prêtant des liaisons avec John Crawford, Eddie Lamar, Vivian Leigh et Barbara Stanwyck, ce qui tout de même fait rêver. Après Lyon, Diego Brosset remonte vers le nord. Il passe par Châtillon-sur-Seine, il revient à 2 pas de cette maison qui est la maison de sa famille. Il remonte, il va libérer Belfort, et le 20 novembre, il s'élance en jeep à la tête de sa division. Son dernier mot est « que la vie est magnifique ». Au lieu-dit, le tournant de passe avant, il donne un coup de frein brutal pour éviter des sapeurs qui travaillent sur la berge, près du village de Champagné. La voiture bascule dans la rivière. Jean-Pierre Aumont tombe sur la berge, on retrouvera le corps de Brosset dans le torrent 2 jours plus tard. Il avait écrit à Louis-Eugène Mangin, que j'ai vu souvent dans cette maison, peu de temps avant sa mort, cette phrase qui pourrait être la devise de toute une famille. On ne peut employer son intelligence à chercher des raisons d'accepter.